Et cette question donc au cœur de notre tête au carré, comment se reposer vraiment la tête pendant les vacances? Dans quelques jours, vous quitterez sans doute vos activités habituelles pour rentrer dans cette période estivale de repos, en espérant peut-être fuir le stress et les sollicitations chronophages, mais se déconnecter n'est pas chose aisée, même si nous sommes nombreux à vouloir mettre donc notre cerveau en vacances. Comment parvenir à emmener nos neurones à la plage? Eh bien, c'est le dossier de la tête au carré cet après-midi, en partenariat avec le magazine Cerveau et Psycho et avec mes invités. Dans un instant, Alexandre Jolien, Frédéric Lenoir et Sébastien Boller. J'attends vos messages, vos questions et vos témoignages. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Une véritable question pour le bac philo aujourd'hui à la une de la science, Axel Villard. La vieillesse peut-elle être considérée comme une maladie?
Bonjour Mathieu, oui, vaste question à laquelle l'administration de santé américaine est confrontée, car elle doit trancher ce jour pour autoriser ou non des essais cliniques pour un médicament anti-vieillissement. On planche tous ensemble dans un instant pour la une avec vos questions sur Twitter, hashtag l'attaque.
Violaine Ballet réalise cette nouvelle tête au carré préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Thomas Delosier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le cerveau en vacances, dossier donc de la tête au carré dans un instant avec mes invités, les philosophes Alexandre Jolien et Frédéric Lenoir. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et Sébastien Boller de Cerveau et Psycho. Bonjour Sébastien.
Bonjour Mathieu.
Cette idée de mettre, Sébastien, le cerveau en vacances, un peu étrange quand même, non? On ne peut pas demander vraiment à notre cerveau de se mettre en pause.
Ben non, on ne peut pas. Et justement, il ne se met jamais en pause. C'est un petit peu l'idée reçue contre laquelle les résultats scientifiques vont. C'est que paradoxalement, un cerveau en vacances est un cerveau qui est presque plus actif qu'un cerveau au travail. Ouais. Mais toute la question, c'est de savoir ce qu'il fait et comment garder un peu les rênes, hein, là, justement. Et exploiter cette activité du cerveau au repos de la façon la plus intelligente possible.
Et ça, ce sont des découvertes plutôt récentes, hein, dans le domaine des neurosciences.
Oui, tout à fait.
Nous permettent de comprendre ce qui se passe dans notre tête quand on est en vacances et qu'on éprouve effectivement des choses particulières. Frédéric Lenoir, est-ce que les vacances peuvent nous permettre d'apprendre à vivre mieux?
Je pense que oui. Là, je reviens des États-Unis où ils prennent pas de vacances et j'ai quand même vu des gens très stressés. Donc, je pense que c'est quand même un moment où on peut essayer de consacrer du temps à des activités qui nourrissent pas simplement notre porte-monnaie, mais peut-être aussi notre âme, peut-être aussi notre cœur, et puis de se détendre un peu, notre corps en a besoin aussi.
Alexandre Jolien, la vacance hein, aussi, c'est apprendre le détachement, faire le ménage dans sa vie, c'est ce que vous préconisez en tout cas beaucoup?
Mais dans la notion de vacare en latin, c'est précisément faire le vide et déjà déconnecter tout ce qui nous encombre. Il y a un sacré boulot.
Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on va voir avec vous, mais vous pouvez nous y aider et on attend vos conseils et bien sûr votre philosophie pour en discuter. On va se mettre donc en congé véritablement grâce à vous dans un instant avec les messages et les témoignages des auditeurs. Vieillir peut-il être considéré comme une maladie? Eh bien, c'est aujourd'hui à la une de la science.
À mon sens, il faut accepter deux ou trois choses dans la vie. Premièrement, d'avoir des ennemis, donc de ne pas être aimé de tout le monde. Deuxièmement, d'accepter de vieillir, et c'est très difficile, il faut commencer assez tôt. Et alors seulement, on peut accepter d'être mortel.
Et c'est la voix du philosophe français Paul Ricoeur à l'instant, et cette vaste question à la une de la science aujourd'hui, suscitée par une actualité américaine, puisqu'une équipe de chercheurs new-yorkais tente actuellement de convaincre la FDA d'autoriser un essai clinique un peu particulier. Il s'agit de tester une molécule censée ralentir le vieillissement en général. Si l'administration accepte, les conséquences pourraient être importantes pour l'industrie pharmaceutique, mais du point de vue philosophique et éthique également. Pour en discuter, nous recevons le généticien Pierre-Henri Gouillon. Bonjour.
Bonjour.
Professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, et puis notre médecin général. Généraliste Dominique Dupagne. Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Avant de débattre, Dominique, parlons de cette drogue, hein, ce médicament que veulent tester ces chercheurs new-yorkais, la metformine. Que savons-nous de ses effets actuellement?
Alors, drogue, en anglais, ça ne veut pas dire drogue, ça veut dire médicament, il ne faut pas dire ça.
C'est un médicament
très utile.
J'aurais dû dire drug.
Un des plus grands médicaments du diabète, très utilisé depuis très longtemps. Et on a des données récentes d'une étude dite épidémiologique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en tirer des conclusions de lien de cause à effet, qui montrent que des diabétiques qui prenaient ce médicament, avait une espérance de vie supérieure à des gens qui n'étaient pas diabétiques. Donc, c'est quand même surprenant. Et du coup, ils se sont dit, si on testait ce médicament pour lutter contre la mort, tout simplement, c'est-à-dire le vieillissement, pour augmenter l'espérance de vie, ils font une demande, mais ce n'est pas une maladie référencée, le vieillissement.
Bah, oui.
Et donc, ça crée un problème philosophico-administratif qui est soumis à la célèbre FDA qui approuve les médicaments, qui doit approuver les indications.
Ouais. Il y a des équipes internationales qui ont testé ce médicament sur la souris, par exemple, et qui ont obtenu des résultats intéressants.
On a des travaux sur la souris qui semblent montrer une augmentation d'espérance de vie des souris. Mm-hmm. Et chez l'homme, on a juste des études d'observation. Et donc, ce que demandent ces chercheurs, c'est de mettre en place un protocole solide, avec tirage au sort, groupe randomisé, comme on dit, de façon à pouvoir conclure de façon formelle sur est-ce que ou non cette metformine augmente l'espérance de vie, c'est-à-dire d'une certaine façon lutte contre le vieillissement, parce que ce n'est pas exactement la même chose.
Pierre-Henri Gouillon, vous avez le sourire parce que vous avez apporté votre propre boîte de metformine. Vous réjouissez de cette actualité personnellement ?
Ah, je trouve ça très amusant, effectivement, de découvrir que le médicament que je prends depuis 2 ans, tous les jours, est en train de diminuer mon vieillissement.
Si vous saviez comment il a l'air jeune,
mais c'est fou, mais on l'observe. Je ne l'ai pas vu depuis un petit moment et je suis le témoin de sa transformation.
Est-ce que biologiquement, le vieillissement est considéré comme une pathologie ?
Alors, en termes d'évolution, on a deux grands types d'explications du vieillissement et de la mort, programmées par les gènes, hein, parce que c'est bien ça, c'était ça un petit peu le paradoxe, c'est comment les gènes qui sont théoriquement issus de la sélection naturelle et qui normalement sont sélectionnés pour fabriquer des organismes qui fonctionnent aussi bien que possible, peuvent bien nous détruire avec ce vieillissement programmé, cette mort programmée. Alors, il y a deux hypothèses, en gros, je vais faire vite. La première, c'est que il y a toujours des mutations comme les maladies génétiques qui apparaissent et puis qui sont contre-sélectionnées, donc c'est normal qu'il y ait un petit fond de maladies génétiques qui traînent dans une population, mais ça doit rester rare, parce que la sélection élimine ces gènes-là. Sauf que si le gène en question, au lieu de vous tuer quand vous êtes jeune, vous tue quand vous êtes vieux, que vous êtes déjà reproduit, que de toute façon vous avez des chances d'être mort d'autre chose, d'un accident, etc. avant, tout compte fait, la sélection, elle n'agit quasiment pas contre ces gènes-là. Et du coup, des gènes qui sont des gènes de maladies génétiques au fond, mais de maladies génétiques agissant tard dans la vie, ne sont pas contre-sélectionnés et vont pouvoir se fixer dans les populations. Et donc, où tout le monde, ou une grande partie des gens en tout cas, va les avoir. Et donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire que cette partie-là du vieillissement peut être considérée comme une maladie. Moi, je voudrais quand même vous dire que chez les biologistes, il y a une phrase que tout le monde connaît, hein, c'est de dire que la vie est une maladie mortelle et sexuellement transmissible. Donc, évidemment, le vieillissement...
Ça, on l'a tous constaté.
Entre autres, voilà. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait voir, au fond, la partie du vieillissement qui s'explique par cette méthode-là comme une sorte de maladie génétique que tout le monde aurait. Et puis, il y a aussi une autre hypothèse qui certainement joue pour d'autres gènes, qui est le fait qu'on sait que certains gènes ont des effets positifs d'un certain point de vue et négatifs de l'autre. Par exemple, un gène qui fait que vous êtes bien en forme quand vous êtes jeune et puis qui fait que du coup vous vivrez moins longtemps. Ou un gène qui fait que vous êtes plus capable de faire des descendants mais que du coup vous vivez moins longtemps et du coup si vous voulez vivre plus longtemps, il faut perdre de la fertilité. Et on a par exemple eu un exemple intéressant d'un gène qu'on trouvait souvent dans les familles de centenaires, qu'on appelait gène des centenaires à l'époque. Mmh. Et ce gène-là, on a constaté qu'il augmentait la durée de vie, mais il vous donne une grande probabilité d'avoir un infarctus à 40 ans. C'est-à-dire que soit vous avez un infarctus à 40 ans, soit vous vivez centenaire. Oui. Alors, évidemment, dans ces cas-là, compenser les effets du gène, c'est un peu dangereux. Surtout si on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Donc, est-ce qu'on est en train d'agir sur l'un ou l'autre de ces types de gènes quand on agit contre le vieillissement ? On n'en sait rien et ça change tout.
Alors justement, Dominique, on sait comment agit ce médicament sur le vieillissement exactement ou pas ? On
connaît le mécanisme. Pas du tout, c'est une constatation empirique. Et c'est à partir de cette constatation empirique qui permet de poser une hypothèse que ces personnes veulent faire un travail scientifique. Mais il faut dire aussi que derrière, il y a des intérêts économiques, vous comprenez,
évidemment.
Parce que c'est quoi la maladie ?
Le marché du vieillissement, c'est extraordinaire.
La maladie rêvée pour l'industrie pharmaceutique, il faut que ça touche tout le monde, que ça ne guérisse jamais et que ça touche des gens riches. Donc c'est merveilleux, le vieillissement. On a eu la ménopause à un moment, mais ça faisait que la moitié de la population. Alors là, le vieillissement, il y a un potentiel absolument phénoménal.
Ouais. Pierre-Henri Gouillon,
sur ce sujet-là, je voudrais dire que pour le moment, on a constaté que ça augmentait la durée de vie chez des diabétiques, c'est-à-dire des gens qui ont un problème de la régulation de leur taux de glucose. Or, justement, c'est un médicament qui change le taux de glucose. Donc, c'est pas du tout impossible qu'il ait des effets carrément négatifs, par exemple, sur des gens qui, eux, auraient une glycémie parfaitement normale et une
c'est
vie
ça, ce qui est quand même incroyable.
Que celle des diabétiques de type 2. Hein.
L'hypothèse parmi d'autres.
C'est ça. Si cette porte s'ouvre, peut-être d'autres médicaments arriveront. Anti-vieillissement, vous voyez ça d'un bon œil, Pierre-Henri Gouillon ?
Alors, je vois ça de diverses façons. Moi, effectivement, en tant que je m'occupe beaucoup d'écologie et de questions de la planète, je m'inquiète de voir la durée de vie des humains augmenter à beaucoup de points de vue. D'ailleurs, au plan social, je pense qu'une société composée exclusivement de vieux, ça ne fonctionne pas aussi bien qu'une société où il y a une pyramide des âges plus équilibrée. Au plan écologique, parce qu'on est déjà très nombreux. Ceci dit, je ne m'inquiète qu'à moitié, parce qu'on n'arrête pas de nous dire que la durée de vie des humains va augmenter. Or, elle n'augmente plus depuis quelques années. Il faudrait arrêter de raconter des histoires. Les types qui nous racontent que il y a des gens qui naissent aujourd'hui qui vivront 200 ans, ils racontent des sottises. Et actuellement, il y a des choses qui font qu'on vit plus vieux, des choses qui font qu'on vit moins vieux, et bien malin celui qui saura comment ça s'équilibre.
Dominique Dupagne, pour terminer, vous êtes favorable à ce type de recherche et à cette question donc suscitée par ce médicament-là aujourd'hui aux États-Unis ?
Moi, j'ai un dilemme terrible, je suis médecin. Mon rôle de médecin, c'est de soigner l'individu et de l'empêcher de mourir et de le faire vivre le plus longtemps possible. Et comme le disait Pierre-Henri Gouillon, au niveau de l'espèce, au niveau du gène, c'est assez catastrophique comme situation. Moi, j'avais été accueilli mon premier cours de biologie par un professeur qui m'avait dit, en tant que médecin, vous êtes un bienfait pour l'individu et un désastre pour l'espèce. Bon. Et donc, bien sûr qu'il y a cette ambivalence qui est toujours présente. Bien sûr qu'il n'y a pas de... par exemple, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort. Il faut qu'on meure. On est des essais à chaque fois à renouveler. Et plus on vit longtemps, moins on fait d'essais et plus on a de chances de stagner, finalement. Ouais. Donc, c'est un problème philosophique énorme.
C'est ça. Alors, Pierre-Henri, pour conclure, puis Frédéric Lenoir, un tout petit mot du philosophe hein, sur cette question, est-ce que vieillir est peut-être considéré comme une maladie, elle est très vite.
Pierre, je voudrais juste vous dire qu'indépendamment des médecins, ça fait longtemps que les humains s'occupent d'individus qui ne devraient pas vivre normalement. Une mutation catastrophique chez tous les mammifères, c'est la perte des poils. J'admire nos ancêtres qui ont conservé ces types absolument affreux, sans poils, qui sont nés. Et nous, on est vachement fiers d'être comme ça. Donc moi, je ne m'inquiète pas tellement du fait qu'on évolue en devenant de plus en plus incapable.
Enfin bon,
il
faut voir qui le dit hein, quand même. Hein. Pierre-Henri Gouillon qui a quand même quelques poils en moins sur le crâne. Enfin bon. Frédéric Lenoir, pour terminer.
Non, moi je déplacerai la question plutôt du débat infini pour savoir si le vieillissement est une maladie ou pas. Ce serait la question plutôt à niveau individuel, même si elle se pose aussi au niveau collectif de manière très importante. Au niveau individuel, vieillir plus longtemps, oui, mais pourquoi ? C'est-à-dire que est-ce que c'est pour vivre dans des conditions de vie, d'épanouissement, de bonheur, ou est-ce que c'est pour continuer de vivre avec des antidépresseurs, des problèmes catastrophiques ?
Donnons-leur la metformine et autorisons-les à fumer, et comme ça
équilibrera les choses. Ah non, ça suffit. Les messages comme ça juste avant de partir.
Si vous aviez passé le bac, je pense que tout le monde aurait eu zéro.
Merci beaucoup, en tout cas, Pierre-Henri Gouillon et Dominique Dupagne. Axel, on se retrouve demain pour la dernière une de la saison.
Et on se retrouve tout l'été en podcast. Hein. Il faut rattraper pour ceux que vous n'avez pas pu écouter cette année.
Franceinter.fr. Allez, en bref, pour terminer, dans le reste de l'actualité, une bonne nouvelle venue des Pays-Bas. Pour la première fois, un tribunal oblige le gouvernement à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. L'initiative vient de 886 Hollandais qui accusent leurs dirigeants de violer les droits de l'homme en ne faisant rien pour combattre le réchauffement climatique. Ce genre de procès n'est pas rare. Mais là, la victoire des citoyens l'est. Résultat, le gouvernement a jusqu'à 2020 pour diminuer de 25% ses émissions. En Guinée, les patients souffrant de paludisme évitent les hôpitaux en ce moment de peur de contracter Ebola. Et selon les estimations, 74 000 malades en moins ont été accueillis cette année. Les patients atteints du paludisme refusent également l'aide à domicile, craignant que leur infirmier ne soit touché par Ebola. Aucun chiffre n'est communiqué, mais les responsables de l'étude estiment que le paludisme fera cette année beaucoup plus de morts qu'Ebola en Guinée. Et puis pour finir, on sait enfin où est la tête de l'Hallucigenia. Depuis la découverte de cet animal fossile il y a 40 ans, les paléontologues étaient incapables de situer la tête de cette espèce de ver épineux vieille de 500 millions d'années. Et grâce à de nouvelles découvertes faites au Canada, ils ont pu trancher. La bête est munie d'une dizaine d'épines sur le dos, de pattes griffues, de tentacules et d'un cou aussi long que sa queue, avec au bout une toute petite tête seulement composée d'une pierre d'yeux et d'une bouche remplie de dents. Et vous pouvez retrouver la modélisation 3D de ce petit monstre sur la page Facebook de La Tête au Carré. Allez, les vacances pour notre cerveau aussi, c'est aujourd'hui dans le dossier de La Tête au Carré avec mes invités Frédéric Lenoir, Alexandre Jolien et Sébastien Boller et tous vos messages. Master Blaster avec Stevie Wonder à l'instant sur France Inter.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Avant de partir cet été, nous avions envie de nous intéresser à la façon dont il est possible de mettre à profit cette période estivale pour nous déconnecter du quotidien, mettre nos neurones un peu en congé. Alors comment s'y prend-on concrètement pour mettre son cerveau dans d'autres dispositions? Les recherches en neurosciences ont des choses à nous dire à ce sujet. C'est le dossier de cette tête au carré en partenariat avec nos confrères de Cerveau Psycho avec un numéro, hein, Sébastien, qui va sortir le 1er juillet dans les kiosques. Le cerveau en vacances. Mes invités donc, Frédéric Lenoir, vous êtes philosophe, écrivain, sociologue, historien des religions, et vous êtes chercheur associé à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Il y a ce livre, par exemple, du bonheur, un voyage philosophique chez Fayard. Alexandre Jolien, vous êtes philosophe, écrivain et coréen, on pourrait dire ça maintenant. Et vous êtes parmi nous pour ce livre également, Vivre sans pourquoi, itinéraire spirituel d'un philosophe en Corée, qui est sorti aux éditions de l'Iconoclaste. Ainsi qu'au Seuil. Et puis Sébastien, donc vous êtes rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Vous avez voulu vous demander quoi, au fond, Sébastien Boller, en explorant le cerveau en vacances?
Je me suis rendu compte que j'avais besoin de vacances. J'avais envie de prendre des vacances.
Comme tout le monde.
Et que j'avais envie d'en parler à nos lecteurs. Et il y a quelque chose qui a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit que, enfin, vous savez qu'on voit, passer sans arrêt quand on travaille dans les métiers qui font de la veille scientifique comme ça. Des grands courants de recherche avec une accumulation d'articles qui semblent comme ça indiquer une espèce d'effervescence dans un domaine. Et depuis une dizaine d'années, il y a énormément de travaux sur ce que fait notre cerveau quand on ne fait rien. Et ça redéfinit beaucoup le champ des recherches en neurosciences et notre façon de répartir un petit peu nos objectifs entre l'action, la contemplation, la détente. Tout ça, c'est des questions qui nous concernent. Mmh. Et on voit aujourd'hui beaucoup d'articles qui montrent ce que fait notre cerveau quand on ne fait rien. Et paradoxalement, parfois, il fait plus de choses quand on croit ne rien faire que quand on est complètement absorbé par des tâches professionnelles très concrètes. Donc ça a été ça, un petit peu la rencontre d'un état de l'art en science qui semblait arriver à maturité. Et puis ce moment où on éprouve, quoi, à un moment, évidemment, le besoin de décompresser.
Ouais. C'est le thème de la déconnexion aussi, hein, la façon dont on peut y parvenir.
Inévitablement, voilà, c'est tout à fait lié. Cette question-là est évidemment modifiée, revisitée par les nouvelles technologies du numérique.
Alors c'est ça, parce qu'aujourd'hui, quand on évoque la déconnexion, immanquablement, tout de suite, les outils technologiques arrivent sur le tapis. Alors qu'il y a 10 ans, Frédéric Lenoir, on se posait les mêmes questions sans justement montrer du doigt nos smartphones ou nos écrans d'ordinateur.
Oui, mais on avait autre chose. On était déjà addict au travail, déjà addict à pas mal d'autres formes de... Finalement, celui qui a besoin d'une dépendance, d'une addiction, il trouvera toujours un objet de son addiction. Donc aujourd'hui, c'est les smartphones, avant c'était autre chose.
Alexandre Jolien, c'est amusant parce qu'en choisissant la Corée du Sud là, depuis 2012, vous êtes dans l'un des pays les plus connectés au monde. Hein. Vraiment, il y a une espèce d'addiction généralisée de la société autour des téléphones ou des écrans. Ça, vous pouvez le constater dans votre vie quotidienne maintenant, j'imagine. Hein.
Oui, je suis frappé de voir deux amoureux dans un bistrot en train de mettre leurs photos sur Facebook plutôt que d'aimer librement son partenaire, oui.
Ouais. Est-ce que la population coréenne, justement, est en quête aussi d'un bien-être particulier et d'une déconnexion affirmée ou pas?
Je crois qu'il y a une tentation de faire du bien-être, du bonheur, un objet de consommation parmi d'autres Moi, je suis frappé dès que je vais chez le médecin pour un mal physique. Il sort sa boîte d'antidépresseurs comme si aujourd'hui le bonheur c'était un état de bien-être, alors qu'on s'est carrément peut-être mépris sur ce qu'est la joie profondément qui nécessite un art de vivre. Une façon de se désencombrer, une façon d'aimer l'autre, et qu'aucune boîte de médicaments ne peut résoudre, finalement. Ouais. Car il n'y a pas de problème à la base, il y a juste un dysfonctionnement dans la poursuite de nos objectifs quotidiens.
Ouais. Et bizarrement, c'est ce pays que vous avez choisi.
Oui, parce qu'il y a la tradition du zen. Je crois que j'ai éminemment confiance aux grains de tradition, que ce soit le christianisme, le bouddhisme, je crois que faire retour à ces sources-là nous aidera plus que une fois encore les médocs.
Ouais. Mais ça, vous n'auriez pas pu le vivre en France, hein. Il fallait aussi faire un choix géographique.
Ce qui me... J'écoutais très attentivement pour moi, être en vacances, c'est quand même introduire des petites ruptures envers, à la compte de la routine, du stress et d'une vie qui tourne à vide. Pour moi, partir en Corée, c'était se libérer de beaucoup de pression sociale. Quand on donne au monde et aux circonstances extérieures comme une télécommande qui nous fait zapper de la joie à la tristesse en un quart de seconde, c'est qu'il y a un petit problème qu'il faut s'empresser, à mon sens, de résoudre.
Frédéric Lenoir, un auditeur anonyme, nous écrit ceci. Est-ce qu'on ne vit pas de plus en plus sous le diktat du bien-être? Il faudrait tous aller bien, penser bien, vivre bien. Ça devient désagréable de voir, entendre, lire partout qu'il faut pour vivre, être en travail permanent de recherche de bien-être, de l'hyperconsommation à l'hyper-bien-être. Stop, ça me fatigue, nous dit cet auditeur. Il n'a pas tort, d'ailleurs. Hein. Oui, il y a cette injonction au bonheur là, qui, de temps en temps, est désagréable.
Alors, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce qu'il y a une injonction insupportable au bonheur, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être heureux, on n'est pas obligé de rechercher le bien-être, on peut avoir d'autres objectifs dans la vie que le bonheur, et notamment si on a des objectifs, si on veut mener une vie créative, si on veut vivre des amours passionnels, c'est pas le bonheur qu'on va trouver, c'est autre chose. Mais je dirais que c'est pas parce que il y a une injonction un peu commerciale aussi, hein, ça a été dit, c'est vrai que la publicité utilise en permanence le terme de bonheur, c'est tout le temps présent, donc c'est pas parce que le bonheur est utilisé à toutes les sauces. Et souvent, de manière, on confond le bonheur et le plaisir. C'est plutôt le plaisir qui est recherché, qui est vanté à travers l'idée du bonheur, qui est une idée beaucoup plus complexe, qui est une idée d'un travail sur soi, qui demande véritablement des choix de vie importants. Comme disait Alexandre Jolien, le bonheur, ça se construit avec une réorientation de ses désirs, avec c'est la construction d'une vie. Donc là, je crois que ne jetons pas l'idée de bonheur, comme on le fait un peu aujourd'hui. Ça peut, vous savez, on passe, il y avait la mode du bonheur depuis une vingtaine d'années, maintenant c'est la mode de plus de bonheur.
Ouais, de détester le bonheur.
Détester le bonheur. Ouais. Et il y a des philosophes qui écrivent des livres pour dire surtout ne recherchons pas le bonheur. Je pense qu'on passe d'un excès à l'autre. Et puis, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans la recherche du bonheur, au sens profond et philosophique du terme, il y a quand même effectivement deux objectifs un peu différents. Il y a l'objectif de la sérénité, qu'on pourrait dire l'ataraxie, c'est ce que les stoïciens appellent l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble. C'est ce qu'on retrouve dans le bouddhisme, c'est ce qu'on retrouve dans le stoïcisme, c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'épicurisme ou chez Aristote. Et puis, il y a un autre objectif qui est la joie. Et là, c'est assez différent. C'est plutôt le point de vue de Spinoza, de Nietzsche ou de Bergson, qui nous disent le critère véritable du bonheur, c'est pas tant l'absence de trouble que la joie profonde qui peut inclure le trouble, qui peut inclure la souffrance, qui peut inclure la difficulté, et on ne cherche pas à l'éliminer. On cherche à vivre pleinement, et lorsqu'on est dans la joie, on peut aussi souffrir. Mmh. Et là, je pense que c'est deux points de vue philosophiques assez différents sur cette même idée profonde du bonheur.
Sébastien Boller.
Oui, je répondrai à cet auditeur que je suis persuadé qu'en fait tout le monde cherche à être heureux, mais que le problème c'est qu'on vit parfois dans des conditions professionnelles ou des conditions sociales qui font que c'est difficile de trouver les opportunités de se sentir bien, et que c'est là que les injonctions deviennent insupportables, parce que encore faut-il trouver le moyen d'attraper le bonheur. Et je trouve que ce que vient de dire Frédéric Lenoir est important également par rapport à ce que disent les scientifiques sur ces états de joie profonde, parce que finalement les études sur ces états-là de joie profonde livre un résultat assez simple. C'est-à-dire que les gens sont heureux quand ils font quelque chose qu'ils aiment. En général, la seule chose qui émerge, c'est ça. Ce sont les études, ce qu'on appelle le flux. Le flux, c'est des moments, par exemple, où quelqu'un, un passionné de modélisme, par exemple, est en train de coller une maquette. Il est complètement plongé dans l'instant présent et dans un geste qu'il aime. Il y a une espèce de focalisation de son attention, de ses sensations, de sa conscience, qui rejoint un petit peu les théories de la pleine conscience, qui font qu'on peut trouver, finalement, on peut être heureux dans des gestes simples. Et c'est à chacun, finalement, de le trouver. Je crois qu'on le cherche tous. Simplement, quand on l'entend dire en permanence et qu'on a du mal à libérer des moments pour ça, qu'on a du mal à trouver la paix d'âme aussi et la simplicité d'existence pour saisir ces instants-là, à ce moment-là, je crois que ça peut susciter des réactions négatives comme celle de cet auditeur.
Alexandre Jolien, c'est la joie aussi que vous êtes allé chercher en Corée. Hein.
Je crois que la joie est beaucoup plus humble que ce bonheur, ce matraquage médiatique autour du bonheur à tout prix. La joie, c'est le dire oui à l'existence. C'est quand je me lève le matin, j'enfile mon pantalon, souvent je pars en lutte contre un adversaire imaginaire, ça peut être son collègue, dans le pire des cas, mais la souffrance et la joie, c'est cesser cette lutte, non pas pour devenir, comme disait quelqu'un, une lavette, mais au contraire, pour être éminemment actif. Je crois que si on congédie de l'âme toutes les ruminations négatives, c'est déjà un grand pas. Et peut-être le premier pas, c'est de voir qu'il y a une radio mentale dans son être qui commente en permanence la réalité, ce qui nous empêche d'être dans le flux, c'est-à-dire dans cette adéquation au monde. Donc le bonheur, plutôt que de rajouter un truc, c'est plutôt enlever tout ce qu'il y a de trop.
Oh, ton cœur est sauvage, il ne répond pas. Toujours comme un sage aux nouveaux appâts. Quand l'esprit amoureux dans des filetons, parfois c'est du sérieux, parfois boum, c'est une bombe. Ouh, éternel est pris, éternel est pris. Ouh, du bois tu n'es pas sorti, du bois tu n'es pas sorti. Oh, ton corps est rebelle, il s'attache trop aux amours étincelles, un faux numéro. À l'affût d'une âme sœur et pas d'adolescente, pas d'enchérisseuse et pas d'inconstante. Oh, tu fais le difficile, tu chipotes et tu veux des filles aux sourires faciles qui te prennent pour un dieu. Si ton cœur est sauvage et ne répond pas, sur un ton plus sage, adieu, adieu à toi.
Retenez bien son nom, elle s'appelle Clou, tout simplement, avec en extrait Éternel et Pris.
C'est bon le soleil.
Ah, le soleil, c'est bon.
J'ai pas eu l'occasion de prendre beaucoup de soleil.
Ah, c'est bon de rien faire aussi.
Oui, j'ai pas eu l'occasion, souvent, de rien faire.
Tu vois le nuage là-bas? On dirait un Stradivirus. Je t'ai jamais venu ici. Grâce à toi, j'y suis. Merci.
Mais grâce à toi, je me sens bien. C'est la première fois que j'ai l'impression de respirer.
Ouvre tes yeux. Ouvre tes narines. Ouvre tes bras. Ouvre-toi. Ouvre-toi.
Oh, c'est bon.
Voilà, c'est Gérard Depardieu qui respire profondément dans l'extrait du film Mammouth pour illustrer notre dossier sur le cerveau en vacances avec Cerveau et Psycho, donc en juillet, 1er juillet dans les kiosques, Sébastien Boller pour ce numéro spécial. Et puis nos invités Frédéric Lenoir et Alexandre Jolien. Vos messages, vos témoignages, on entendait Depardieu respirer. Patrick nous dit, au début du mois, je suis parti 15 jours marcher sur le chemin de Stevenson, 2 semaines sans télé, sans radio, sans journaux, sans internet. Une vraie libération. En marchant ou au repos, je me suis surpris à voir les choses autour de moi avec un autre regard, être plus ouvert aux autres, à réfléchir sur des sujets qui s'imposaient à moi sans que je les provoque. Délicieuse expérience que je renouvellerai. C'est difficile à tenir en permanence, au fond, Alexandre Julien, ce que nous éprouvons dans des conditions particulières, précisément de congé ou de rupture du quotidien.
Je crois que la grande tentation, c'est de meubler. Aujourd'hui, je suis frappé avec Facebook, comme ça nous fait croire en une autre existence à côté de cette bien réelle qu'on vit du matin au soir. Et déjà coupé ça, moi, j'ai coupé ça depuis quelques mois, je me sens mais régénéré parce que ça nous bouffe une énergie considérable. Et ça maintient une femme dans une sorte de narcissique. Le propos de l'auditeur m'a beaucoup touché, de dire que quand on va bien, on s'ouvre à l'autre. C'est vrai que quand on est bien dans ses baskets, l'autre n'est plus un concurrent, un adversaire, mais juste quelqu'un qui est là. Et ça participe d'un miracle qu'on soit tous dans le même métro. Moi, je trouve tout sauf commun. Les transports en commun, finalement, on a combien de chances sur 1 milliard d'être tous là. Et je suis frappé du nombre qu'on est à tirer la gueule, alors que, putain, on n'a qu'une vie et c'est pas la compétition, c'est pas le matériel qui comble, c'est juste être là, finalement.
Frédéric Lenoir, pareil, oui, pour réagir
comme dit Alexandre, juste être là, c'est peut-être la chose la plus difficile qui soit. Et finalement, la joie de vivre, elle est là. Faut simplement être attentif, faut être présent, faut une qualité de présence à soi, une qualité de présence au monde, une qualité de présence aux autres. Mmh. Et c'est ce qu'on a un peu perdu, parce que quand on voyage beaucoup, on s'aperçoit qu'il y a plein de pays, ils n'ont pas grand-chose, hein, en Asie, en Afrique et tout. Mais les gens ont une joie de vivre qui est beaucoup plus forte que chez nous, parce qu'on s'est compliqué la vie avec, effectivement, nos préoccupations de compétition, nos préoccupations d'ego, etc. Et donc, faut arriver à se redépouiller pour arriver à vivre des sensations extrêmement simples. C'est pour ça que l'extrait était formidable avec Gérard Depardieu. Rien que de pouvoir respirer, sentir le soleil, se sentir exister, se sentir en vie, ça peut donner une joie extraordinaire. Mais on prend plus le temps, finalement, de vivre ces expériences d'attention, d'ouverture de son corps, d'ouverture de son cœur, et qui nous mettent dans la joie absolue.
Alexandre Jolien.
Ce qui me paraît aussi essentiel, c'est la solidarité, un truc que dit Nietzsche, c'est au réveil, demande-toi à qui tu peux faire plaisir aujourd'hui. Il me semble que c'est vraiment important. J'ai un ami qui est croque-mort, et de plus en plus, il y a des gens qui crèvent dans la solitude. Et aller à contre-courant ici, c'est vraiment tendre la main, c'est pas forcément sexy. Il y a peut-être pas une satisfaction immédiate, grandiose, mais je crois que ça peut sauver la vie et ça nous décentre et ça nous donne de la joie.
Un petit message pour vous, Frédéric Lenoir de Booba. Merci, je n'avais pas lu le mot ataraxie depuis mes cours de philo en terminale il y a 20 ans. C'est moi que vous avez employé tout à l'heure. Hein.
Oui, mais parce qu'il veut bien dire quelque chose d'important, qui est effectivement une recherche possible d'un équilibre, d'une paix, d'une sérénité. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est ce qu'on recherche? Il y a des gens, oui. Ils ont envie de sérénité, c'est ça qui les rend heureux. D'autres gens, non. Ils préfèrent une vie qui est plus dans le mouvement, qui est plus dans le trouble, dans les eaux plus troubles, mais dans lequel il peut y avoir aussi de la joie.
Alors Sébastien, qu'est-ce qui se passe concrètement quand on relâche la pression dans notre cerveau? Parce qu'il y a des choses qui se réveillent, justement.
Hein. Il y a plein de choses qui se réveillent, et l'extrait était fantastiquement choisi. Il pose
c'est Violaine Ballet, hein, vous pouvez la remercier.
Merci Violaine, parce que cet extrait pose vraiment la question qui se pose à nous tous aujourd'hui. C'est ce que dit Depardieu, c'est est-ce que vraiment c'est bon de ne rien faire? Parce que quand on pose la question avec des méthodes scientifiques, il y avait eu cet article mémorable dans Science l'an dernier, où on proposait à des volontaires d'entrer dans une pièce et de rester un quart d'heure sans bouger, sans rien faire, ou alors d'actionner un levier qui leur envoyait des chocs électriques. Et à 66%, ils préféraient jouer avec le levier quitte à avoir des chocs électriques. C'est-à-dire que ne rien faire, ça, c'est déplaisant pour beaucoup de monde. Et c'est pas parce que l'être humain est incapable de, peut-être si, comme disait Pascal, de rester dans son fauteuil, mais c'est aussi peut-être parce qu'on y est de moins en moins préparé. On est sans arrêt occupé, comme disaient les temps de Jolien, on meuble sans arrêt. Notre cerveau, notre système attentionnel est capturé seconde après seconde, minute après minute, dans les transports, au travail, par des outils numériques qui nous proposent sans arrêt de meubler, comme vous le disiez. On voit plus aujourd'hui pratiquement des gens simplement assis dans le train à regarder par la fenêtre. Ça, c'est terminé. Enfin, moi, je les cherche, j'en vois de temps en temps et je l'étudie attentivement parce que c'est une espèce en voie de disparition. Ouais. Donc, on meuble sans arrêt. Et qu'est-ce qui se passe quand on meuble? C'est ça que je réponds à votre question. On sollicite une partie de notre cerveau. Une partie bien précise de notre cerveau qui est une partie opérationnelle. L'avant de notre cerveau, ce qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est sans arrêt en train d'orienter l'attention, de planifier l'étape d'après, d'utiliser ce qu'on appelle la mémoire de travail, combiner des éléments qu'on a en tête en vue de résoudre un problème. On utilise aussi un autre réseau qu'on appelle un système de détection des erreurs qui définit des objectifs et qui suit en temps réel si on s'approche de l'objectif et qui voit s'il y a des erreurs qui sont commises ou pas pour atteindre cet objectif. Donc il y a ces deux grands réseaux qui sont sollicités dans nos vies opérationnelles au travail. Donc ça fonctionne en permanence et ça utilise des voies neuronales, notamment des voies dopaminergiques qui peu à peu s'épuisent. C'est ce que nous raconte Jean-Philippe Lachaud dans cet article. Peu à peu, les réserves de dopamine s'épuisent et là, les centres opérationnels commencent à avoir besoin de souffler. Et quand on arrive en vacances, à ce moment-là, tout ça, on le met au repos. Donc le cerveau opérationnel se met en veilleuse et c'est un autre cerveau qui se réveille. Et c'est là qu'on trouve ce qu'on appelle le réseau par défaut. Alors, réseau par défaut, c'est un ensemble d'aires cérébrales qui sortent de leur silence, justement, quand on est assis dans un transat, ou quand on est allongé sur son lit le soir, ou quand on prend le temps de rester dans son fauteuil, qu'on se dit « je vais ne rien faire pendant 5 minutes ».
Et là, il se passe des choses, dont on a tous été témoins d'ailleurs sur nous-mêmes.
Voilà, il y a des choses qui se passent et qu'on maîtrise beaucoup moins. Et c'est ça qui est... Alors, il y a des gens qui aiment ça, qui aiment cette ataraxie, d'autres qui, comme dans l'expérience avec les chocs électriques, ne supportent pas ça, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a peu développé pendant nos vies hyperactives.
Alors, qu'est-ce qui se passe, par exemple, Sébastien ?
Vous avez ce réseau par défaut qui comporte des aires, par exemple, qui sont liées à la réflexion sur tout ce qui nous concerne nous-mêmes, la réflexion par rapport à soi, des zones de la mémoire autobiographique, donc qui vont brasser des souvenirs de notre vie passée. Des parties du cerveau qui permettent de se projeter dans l'avenir, d'imaginer des scènes de notre futur. Donc qui créent une espèce de continuité entre notre passé, notre avenir, et qui intègrent aussi ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est la capacité de se mettre à la place des autres et d'imaginer des relations sociales.
Ouais. Et ça, donc, c'est essentiel pour l'identité de chacun d'entre nous.
C'est fondateur de l'identité.
Donc c'est important de le laisser émerger.
Voilà.
Tant qu'on est dans... Ça crédite cette idée de laisser reposer le cerveau, parce qu'il se passe ces choses-là pendant qu'on laisse reposer.
Donc c'est pour ça qu'on arrivait dans ce dossier à l'idée que les vacances, c'est une façon de se retrouver soi-même. Et que tant qu'on n'a pas ces moments de vide, on est dans la fonctionnalité, stimulus-réponse, et à la limite, un peu une machine.
Voilà, et on occulte effectivement ces éléments essentiels aussi à la vie d'un être humain. Frédéric Lenoir.
Oui, tout à fait. Moi, je voulais rebondir là-dessus pour dire, évidemment, je ne pensais pas que vous alliez dire que c'est très positif. C'est que faut pas fuir ces moments-là, parce que c'est les moments où on peut, l'auditeur disait tout à l'heure, changer de regard. Notre regard, puisqu'il est plus robotisé par des tâches à accomplir de manière mécanique, il peut changer. Donc, on a un autre regard sur soi, on fait émerger des choses de notre passé, on se projette dans le futur autrement, et notre identité se reconstruit. C'est souvent après des moments de vacances que les gens décident de changer de vie, par exemple. Ils ont passé un mois qui les a complètement fait sortir de toutes leurs habitudes, leurs mécanismes habituels, et ils s'aperçoivent après un mois de break qu'ils ont envie de changer de vie. Alors ça peut être changer de compagne ou de compagnon, ça peut être changer de métier, ça peut être changer de pays, mais c'est souvent après ces moments-là que se prennent ce type de décisions qui sont très importantes.
Le réseau par défaut qui leur fait faire ça.
Voilà. C'est l'élément essentiel du dossier d'ailleurs.
Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport, il y a quand même aujourd'hui une vague, alors elle va être critiquée par les auditeurs aussi parce que c'est une mode, mais je la trouve quand même très utile, c'est la méditation. C'est que le fait qu'on découvre une méditation laïque qui n'est plus religieuse, qui est ce qu'on appelle la pleine conscience, moi je dirais plutôt la pleine attention, ça me paraît plus juste. Et au fond, c'est un moyen de s'habituer à ça. C'est-à-dire que le fait que tous les jours, On s'habitue 5 minutes, puis 10 minutes, puis un quart d'heure, et puis chacun peut augmenter avec le temps qu'il veut, mais déjà 5 minutes, tous les jours, à s'observer, à laisser passer les pensées, à ne pas se crisper sur les pensées, à être présent à son corps, c'est un exercice extrêmement précieux, parce qu'il nous habitue finalement à vivre dans ces temps de silence, dans ces temps avec soi-même, où on n'est pas préoccupé par une tâche à accomplir, par un objectif à atteindre. Et ces temps de gratuité, où on ne cherche rien à obtenir, simplement d'être là, simplement d'être présent, ça nous aide extraordinairement dans la vie. Moi, ça fait 30 ans que je pratique la méditation. Je l'ai appris en Inde quand j'avais 20 ans. Et je peux dire que c'est ce qui m'aide à respirer. C'est ce qui m'a appris à respirer et à avoir déjà ces décalages de regard au quotidien. Donc, je crois que c'est extrêmement précieux pour beaucoup d'apprendre cette petite technique très simple de la méditation.
C'est passionnant parce que ce que vous dites rejoint les études des neuroscientifiques qui voient dans le cerveau des méditants, en fait, une alternance entre ces réseaux de l'attention et ces réseaux du vagabondage mental. Le cerveau au repos et le cerveau qui travaille sont dans des cycles d'alternance, et si bien que le cerveau attentionnel apprend finalement à se réconcilier avec le cerveau flottant. Donc il y a une sorte de travail-vacances dans la méditation qui permet peut-être de sortir de ce schéma binaire où on bosse comme des fous pendant 10 mois et on décompresse à fond pendant 10 mois.
Alexandre Jolien, ce vagabondage mental, moi j'aime bien l'expression également, hein, être confronté au fond à cette rupture, c'est aussi un mot que vous employiez tout à l'heure. Hein.
Oui, moi j'ai bu vos paroles. Et je me réjouis que la séance vienne
valider au fond, hein.
Valider et nous encourager, parce que c'est comme si notre esprit, notre mental du moi avait été programmé, la publicité. J'ai pas envie d'un truc, on me balance ça à la gueule et je cours acheter. Ça, c'est le prix d'une programmation lente et efficace, finalement. J'ai bien aimé la notion de pleine attention. C'est vrai que la méditation, c'est un truc qu'on voit à toutes les sauces. C'est peut-être parce qu'on a bazardé, à mon sens, un peu trop vite les traditions religieuses qui nous disaient unanimement qu'il y a quelque chose plus que les apparences. Il n'y a pas besoin de devenir un cul béni, mais une ouverture à la transcendance. Et moi, ça me graine qu'on associe la religion à quelque chose de culpabilisant, de triste, alors que c'est un éveil, une attention au présent. Et la méditation, si elle est si valorisée aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde de dingue, où il y a tout le temps plus d'oppression. Si on est marginal aujourd'hui, c'est-à-dire la majorité des gens, Deleuze, il disait que si tous les marginaux se rassemblaient, ils seraient majoritaires. J'aime beaucoup cette idée. Mais est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de ralentir un peu? Est-ce qu'on a le droit d'aller à son propre rythme?
On se l'accorde, ce droit-là, heureusement, hein.
Ben, je suis pas sûr que quand on est un employé, on peut avoir le droit de ralentir.
Ben justement, voici un extrait qui pourrait illustrer vos propos des vacances du petit Nicolas.
Allô ?
Alors mon vieux, ça se passe bien ?
Oui, merci.
Tant mieux, tant mieux. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre carte postale. Hein. Ça m'a fait plaisir.
Ah ?
Ah oui, 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 ça me touche beaucoup. Tout le monde n'a pas ce genre d'attention, hein ? Alors voilà, ben, je voulais vous le dire.
Oui, bon, enfin, c'était pas la peine.
Mais si, c'est important, vous savez. Parce qu'on travaille tous dur et puis on n'a pas toujours le temps pour ce genre de choses, voilà. D'ailleurs, reposez-vous bien parce que j'ai des projets pour vous à la rentrée.
Des projets ?
Oui, de grands projets. Mais on en reparle à la rentrée, d'accord ? D'ici là, profitez, mon vieux, profitez. Allez, bonnes vacances. Bonnes vacances.
Merci, monsieur Mouchboum. Au revoir, monsieur Mouchboum.
Voilà, c'est le coup de fil le plus vachard, au fond, avant les vacances. Il y a une pression terrible, Frédéric Lenoir, posée sur l'employé qui croyait bien faire en envoyant sa petite carte postale.
Bien sûr.
Voilà, et qui se projette déjà dans ce qui l'attend à la rentrée. Il ne faut surtout pas penser à ce qui va se passer à la rentrée. Il faut vivre, justement, là, le temps présent. C'est aussi un des messages.
Il faut vivre le temps présent. Alors ça aussi, Alexandre disait tout à l'heure, on se réjouit de voir que la science valide ce que les sages nous disent depuis 2500 ans. C'est que le bonheur et la joie sont dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'il faut être effectivement attentif à l'expérience qu'on est en train de faire, que ce soit une expérience professionnelle ou de vacances d'ailleurs, peu importe, mais d'être attentif. Et là, je trouve qu'il y a une vraie convergence entre la philosophie et la science, notamment les sciences cognitives, puisque les études qui ont été faites sur le cerveau montrent que quand des gens sont attentifs à ce qu'ils font, quelle que soit l'activité, encore une fois, ça peut être une activité professionnelle ou une activité de loisir, mais quand ils sont vraiment attentifs à ce qu'ils font et qu'ils n'ont pas le cerveau qui vagabonde, ça sécrète de la dopamine et de la sérotonine, qui sont effectivement les substances chimiques dont on a le plus besoin pour créer du bien-être. Donc, plutôt que de prendre des antidépresseurs, je pense qu'effectivement, il suffit de réapprendre l'attention. Mais c'est une rééducation. Il y a même des méthodes, par exemple la méthode Vito, c'est une méthode qui a été inventée par un médecin pour réapprendre tout simplement à être attentif avec ses sens. Quand je touche quelque chose, ressentir. Il y a des gens qui ne ressentent plus. Quand j'écoute, vraiment écouter. Tellement on est souvent pris par nos préoccupations internes qu'on n'arrive plus à être sensible, à être à l'écoute de nos sens et à être attentif à ce que nos sens, à nos perceptions, à nos sensations. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on peut réapprendre parce que ça nous aide, quelle que soit notre activité, encore une fois, qu'on soit en vacances ou qu'on travaille, à être dans un état, je pense, plus épanoui.
Un message de Rémi, un grand merci à vous tous pour cette année, passée en compagnie de l'émission. Ça me permet de vivre heureux tout en travaillant. C'est un plaisir d'entendre à nouveau Alexandre Jolien sur votre antenne. Quelle leçon de vie. Et quand je peine à prendre le temps, je repense à Alexandre le bienheureux et tout va mieux. Encore merci, à l'année prochaine. Voilà, c'est un petit message avant que vous ne rentriez en Corée. Alexandre Jolien, samedi, je crois. Sébastien Moller.
Oui, comme disait Alexandre Jolien, il faut pouvoir, pour réaliser ce que vient de dire Frédéric Lenoir, il faut pouvoir ralentir. Et l'extrait des vacances du petit Nicolas était un petit peu une préfiguration de ce qui nous arrive de plus en plus. C'est-à-dire que là, on a un coup de fil pendant les vacances. Bon. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin même de recevoir un coup de fil pour avoir la tentation de vérifier si on a reçu un mail du collègue ou je ne sais qui, même quand on est à la plage. On voit des gens avec leur téléphone portable sur la plage. Avec la peur, quelque part, d'être largué par le rythme, soit de l'information, soit de la compétition qui continue à courir ailleurs, à Paris ou à l'étranger. Parce qu'on sait, même quand on est sur la plage, que les choses continuent à avancer. Ce que nous explique Jean-Philippe Lachaud dans l'article, il dit que le problème, c'est de quitter cette peur. Cette peur de ce qui se passe quand on est déconnecté. Il y a un syndrome psychiatrique qui commence à être étudié, qui s'appelle la FOMO, c'est la fear of missing out. C'est des individus qui ont tellement peur de rater ce qui se passe quand eux sont déconnectés, qui consultent sans arrêt leur messagerie ou qui retournent avant la fin des vacances pour vérifier que tout est en place. Des gens aussi qui vont dans des fêtes où ils sont pas invités pour vérifier qu'ils ont pas été exclus du groupe. Donc, la connexion permanente fait qu'on peut avoir peur d'être quelque part exclu très rapidement.
C'est le désir de tout contrôler aussi. Je pense qu'il y a, y a beaucoup de gens qui ont besoin de tout contrôler pour être rassurés. Et je pense qu'une des clés du bonheur, c'est le lâcher prise. Et c'est ce que nous enseignent les taoïstes, par exemple. On n'a pas parlé du tout de la Chine, mais là, il y a vraiment la sagesse taoïste. C'est la sagesse par excellence du lâcher prise. C'est-à-dire, il faut vraiment prendre la vie avec sans vouloir la contrôler. Et pour eux, le modèle du sage, c'est pas le vieillard qui contrôle tout, c'est l'enfant qui est dans la spontanéité, qui vit dans le flux de la vie et qui ne cherche pas à contrôler tous les éléments de sa vie.
Retrouver l'innocence de l'enfant.
Oui, retrouver cette innocence. Ça, et Nietzsche sera totalement dans cette perspective-là, dans le consentement à la vie et non pas dans je voudrais absolument que ce soit comme ça et je vais tout faire pour, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser.
Alexandre Jolien, vivre nu, le détachement qui est une notion centrale justement dans votre réflexion, et vous écrivez aussi dans ce livre, Vivre sans pourquoi, le plus grand repos coïncide avec les vacances de l'ego.
C'est pour dire ce que... J'ai vraiment compris que ce que disaient les pères du désert, moins on fait cas de soi, moins on souffre. Et cette crispation du matin au soir, je dois hyper protéger mon ego, ça fatigue, ça épuise, ça rend dingue.
Muriel nous dit, considérée comme une intello de gauche trop cérébrale, trop compliquée pour être heureuse, coupant en quatre les cheveux d'une société un peu folle, j'ai creusé la route d'un homme, un clown un peu fou, si différent. Depuis 23 ans, on se surprend, on se fait la vie plus douce, même quand elle n'est pas facile. Je n'ai rien renié de mes engagements, mais j'ai opté pour le bonheur et je respire légère. Voilà, ça fait du bien aussi de dire ça cet après-midi. Sébastien, qu'est-ce qu'il faut retenir enfin de ces études donc en neurosciences sur la vacance du cerveau, et quels conseils on peut donner justement aux auditeurs avant de partir là dans quelques jours? Bon, la déconnexion, ça on l'a compris. Essayer de se connecter au contraire au moment présent.
Voilà, je pense qu'il faut valoriser ces moments-là. Une des autres leçons de notre dossier, c'était des études montrant que quand on prépare ses vacances à l'avance, on se fait énormément de bien. Il y a une façon de cultiver l'expérience qu'on va vivre et qui va de pair aussi, d'après les études sociologiques que nous mentionnons, avec un glissement quand même qui est assez encourageant d'une société, disons, il y a une vingtaine d'années très matérialiste, vers une société qui encourage plus les expériences et les moments agréables qu'on peut vivre, authentiques, avec des gens. On voit que, par exemple, sur le marché, par exemple, des vacances, de plus en plus de personnes préfèrent acquérir des séjours ou des voyages plutôt que des biens matériels du même prix. Et que dans des expériences de psychologie sociale, on se rend compte que nous jugeons plus intéressant, plus agréable, des gens qui investissent dans des moments passés ensemble que dans des objets. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut-être est en train de nous sortir de l'ornière. En tout cas, oui, pour revenir sur cette espèce de diktat du bien-être, je pense que ce que nous dit la méditation, la neuroscience en même temps, c'est que la première chose à faire, c'est d'accepter ce qu'on vit quand on le vit. Et s'il y a des moments désagréables, s'il y a des émotions négatives, si on se sent mal à un moment, l'important, c'est de pas évacuer ça, de se dire de toute façon, allez, ça va passer, il faut que je vive un moment avec moi-même et que je remplace pas tout systématiquement par un rythme frénétique.
Allez, Frédéric Lenoir, un conseil pour nous avant de partir, là, dans deux jours.
Cherchons le soleil. Je pense que c'est un élément essentiel du bien-être du corps. Mais je pense qu'il y a une chose qui, pour moi, est importante, je sais pas si ça l'est pour tout le monde, c'est d'essayer de ménager des temps de partage et des temps de solitude. Et je me rends compte que des vraies vacances pour moi, c'est des moments où j'ai pu à la fois vivre des moments très heureux avec mes proches, avec des amis, qu'on retrouve des maisons, on est nombreux, etc. Mais aussi des moments où j'ai pu randonner pendant 3-4 jours tout seul. Parce que là, je me retrouve avec moi-même et j'en ai aussi besoin.
Alexandre Jolien, vivre sans pourquoi, ça veut dire quoi alors exactement?
Alors, vivre sans pourquoi, c'est quitter la dictature du camp du raton. C'est un peu d'être lié aux objectifs et à l'après. Essayer, je pensais, pour moi, la cesse de ton corps, de ton âme et de l'autre, tu prendras grand soin. Et pour moi, c'est le cœur de la pratique. Et pour ce faire, on a besoin d'amis dans le bien. Je suis content d'être à côté de Frédéric. Quand je suis débarqué en Corée, j'avais pas du tout d'amis et c'était une belle expérience que de voir que l'ami nous façonne aussi.
Ouais. Et on peut s'exercer avec un CD qui est aussi dans votre livre autour de cette idée vivre sans pourquoi, les médecines de la vie, la méditation justement, le baromètre intime. C'est aux éditions L'Iconoclaste Seuil, itinéraire spirituel d'un philosophe en Corée. Vous repartez là samedi, Alexandre Jolien. On était ravis de pouvoir vous accueillir pour la première fois dans l'émission.
Et son livre est merveilleux. Avant je ne dis pas simplement départ. Parce qu'Alexandre est un ami. C'est vrai que c'est un livre qui m'a beaucoup réjoui.
Frédéric Lenoir, Du bonheur, un voyage philosophique, par exemple chez Fayard. Il y en a beaucoup d'autres, la bibliothèque est sur le site de La Tête au Carré. Et puis Cerveau et Psycho, le cerveau en vacances, c'est vraiment emporté dans les bagages, tranquillement. C'est en kiosque à partir du 1er juillet. Merci infiniment à tous les trois de ce moment passé dans La Tête au Carré.